Parfois, l'esprit souffle beaucoup plus fort que ce que nous pensions. Béatrice a fini son petit mot avec le début de ce que j'avais prévu commencer pour l'homélie. Alors, je me dis, c'est quand même un beau clin d'œil de l'esprit. Effectivement, dans l'Évangile, deux fois revient cette phrase, « Tu es mon fils bien-aimé ». La première fois, on le sait, c'est au moment du baptême. Un moment où le Christ commence sa vie publique. C'est quand même intéressant de voir que cette phrase survient à un moment où Jésus va entrer dans sa vie publique et qu'il pose un geste inédit. Dans la foi juive, on rentre par la circoncision, pas par le baptême. Le baptême était tout au plus un geste un peu pieux qui n'avait pas beaucoup de portée au niveau religieux, peut-être au niveau spirituel plus. Mais ce n'est pas prescrit. Si je veux devenir chrétien, je passe par le baptême. Pour un juif, le baptême n'avait pas le sens aussi fort que nous. Et Jésus va aller poser ce geste. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment? Le Père lui dit, « Tu es mon fils. » Et en lui disant cela, l'esprit d'amour descend sur lui. Et qu'est-ce qui suit immédiatement ce geste? Les évangiles nous disent que l'esprit le pousse au désert pour subir l'épreuve. Après 40 jours, donc le temps d'un carême, il va être tenté. Tenté de usurper la place de Dieu, qui est aussi sa place, pour montrer sa domination. Et il va refuser cela. Et aujourd'hui, dans le texte que nous venons d'entendre, encore une fois, la même phrase revient. Tu es mon fils bien-aimé. Et qu'est-ce qui a précédé ce texte dans les trois évangiles? C'est l'annonce de la mort de Jésus. Il annonce qu'il sera crucifié. Et même Pierre, qui à son habitude fait un grand fanfaron, non, ce ne sera pas comme ça. Et Jésus va lui dire, passe derrière moi, Satan. Donc, encore une fois, un refus d'être le maître. Il sera obéissant. Et quels sont les personnages qui apparaissent dans ce passage? C'est intéressant. Moïse et Élie. Moïse qui personnifie la loi. Élie, les prophètes. Et pour nous, c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Parce quelle est la voie que nous avons à suivre? Parce que ces textes ont été écrits pour nous, pour les chrétiens, les croyants. On n'a pas voulu raconter une histoire. On veut transmettre un message. Pourquoi on fait intervenir Moïse et Élie? Parce qu'au niveau historique, on ne sait pas s'ils étaient là ou non, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Moïse, c'est la loi. Et la loi, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui me permet d'être véritablement. On peut l'avoir comme quelque chose de contraignant. On peut l'avoir comme quelque chose qui nous limite, qui nous empêche. Mais une loi, et la loi de Dieu, on le sait, ce sont des paroles de vie. Cette loi est là pour nous dire, va vers là, c'est là que tu auras la vie. Et c'est ce que Dieu nous dit au chapitre, en Deutéronome, je ne sais plus si c'est le chapitre 15 ou le chapitre 30, je pense que c'est 31 à 15, et dans le psaume 1. Vois, tu as deux voies devant toi, une voie vers la vie, une voie vers la mort. Choisis. Si tu veux aller vers la vie, suis ma voie, mes commandements. Et de l'autre côté, nous avons Élie. Élie, ce sont C'est la figure des prophètes. Et qu'est-ce que les prophètes nous disent? Espérez. Gardez confiance. C'est ce qu'ils nous disent. Dieu va venir sauver son peuple. Dieu vous aime et il vous pardonne. Il veut établir une alliance indestructible avec vous. C'est ça. La loi qui nous rappelle que nous avons un chemin qui est balisé pour nous empêcher d'aller nous perdre, et les prophètes qui nous rappellent cette espérance. Mais si on entre dans ce chemin, est-ce que nous ne serons pas nous aussi transfigurés? Est-ce que nous n'aurons pas ce visage qui va dire, voilà des gens qui sont pleinement en vie? Pendant trop longtemps, on a axé le carême sur la mortification. Ne pas faire ceci, ne pas faire cela, ne pas manger de chocolat. Ceux qui n'aimaient pas de chocolat, ils étaient très heureux. Pas manger de viande, ceux qui aiment le poisson étaient aussi très heureux. Mais ce n'est pas ça. On prenait une mine très triste. Alors que ça devrait être un moment où on dit, je suis avec Dieu et Dieu me porte. C'est ça le carême. Oui, le jeûne peut être là pour m'aider à me libérer. Mais il n'est pas là pour me confiner. Et ça, ça change tout. Si je me prive, traditionnellement, le chocolat, la viande, mettez ce que vous voulez, uniquement pour me priver, ça n'a aucun sens. Manger du chocolat. Parce que ce que je fais comme geste, ce n'est pas pour me priver, c'est pour entrer dans une meilleure relation. Faire confiance. Dire que ma source n'est pas en moi, elle est en Dieu. Et ça, c'est une grâce à recevoir. Nous pouvons prier aujourd'hui les uns pour les autres, les uns avec les autres, afin justement de recevoir cette grâce, de percevoir la loi et les prophètes comme un chemin de vie, et de nous engager sur ce chemin afin que nous puissions grandir et devenir de plus en plus des chrétiens joyeux.